Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine de la vie au quotidien, au Okapi Service. Nous sommes heureux de vous retrouver encore ce matin pour vous servir. Et merci de nous suivre partout où vous êtes, chez vous, à la maison, dans votre véhicule, dans votre bureau. Ou merci également à tous ceux qui nous suivent sur Internet, sur www.radiookapi.net. Bien, aujourd'hui, on va parler de la mode. Comment promouvoir l'entrepreneuriat dans le domaine de la mode. Nous avons trois invités aujourd'hui dans ces studios. Monsieur Kabir Ati, responsable du programme, responsable programme des Kobo Hub, est avec nous dans ces studios. Monsieur Kabir Ati, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Il n'est pas seul. Nous avons également monsieur Albert Ngandou, qui est responsable technique. Bonjour. Emmanuel Kazadi, responsable de la bibliothèque et Microfolie. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bienvenue à tous dans cette émission. Vous voulez participer à ce programme de la vie au quotidien? Eh bien, composez le 085 42 11 547. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Et merci à vous tous qui nous suivez sur les plateformes digitales. Grâce à Esther Mamboté et Plamedi qui gèrent ces secteurs. Dieudonné Nyangassa assure la mise en onde. Benjamin Moudoumbi coordonne et réalise cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Et oui, encore une fois, bienvenue dans votre magazine de la vie au quotidien, au Okapi Service. Vous savez, la RDC est un vivier impressionnant des créateurs de modes talentueux. De nombreux stylistes émergent, mêlant savoir, matières locales comme le raffia et tendances contemporaines. Les nouvelles collections de vêtements sont souvent présentées dans des boutiques de mode, lors des défilés de mode et autres grands événements comme la RDC Fashion Week. Et selon de nombreux experts, les entrepreneurs dans les domaines de la mode peuvent évoluer en créant leur propre marque reconnue sur le plan international, soit ils peuvent travailler avec des marques de renommée mondiale. Par ailleurs, le gouvernement congolais, à travers le ministère de la Culture, s'engage à soutenir l'industrie de la mode pour valoriser le « Made in Congo ». Et pour atteindre cet objectif, l'Institut Régional de la Mode en Afrique, IRMA, un sigle, a ouvert ses portes à Kinshasa pour former la nouvelle génération des créateurs de mode ou stylistes. Alors, comment encourager les jeunes à investir dans les domaines de la mode pour garantir leur indépendance financière et quelles sont les opportunités qui s'offrent dans ces secteurs? On va parler aussi de cet institut IRMA. Alors, comment fonctionne IRMA? Quels sont les différents services qui sont organisés à IRMA? Eh bien, nous avons l'honneur de recevoir une forte équipe de cet institut dans ce studio, conduite par Monsieur Kabir Ati, qui est responsable programme des Kobo Hub. Kabir Ati, encore une fois, bonjour et ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission.
Bonjour Monsieur Jody, et merci aussi de nous donner l'honneur de pouvoir nous exprimer sur vos ondes.
Alors, tantôt on parle de Kobo Hub, tantôt on parle de IRMA. Bon, est-ce que vous pouvez nous aider à bien comprendre ces différents concepts?
D'accord, ok. Donc, Kobo Hub, c'est vraiment c'est une structure d'accompagnement, une structure d'incubation qui a été créée par Madame Sidonie Laterre et qui existe depuis plus de 8 ans en RDC. Et en tant que structure d'accompagnement, Kobo Hub intervient dans trois grands domaines d'activité, à savoir les industries culturelles et créatives, l'agro-business, mais également aussi la technologie. Mmh. Et maintenant, l'IRMA est un projet commun, mais principalement mené par Kobo Hub, mais avec le soutien de l'ambassade de France. Donc l'Institut Régional de la Mode en Afrique, c'est vraiment le hub dédié à la partie industrie culturelle et créative de Kobo Hub. Donc l'Institut Régional de la Mode en soi, Irma, est vraiment le premier institut dédié vraiment à la mode. C'est un tiers lieu qui est vraiment consacré à l'univers de la mode et qui concentre tout un écosystème. Donc l'Irma à lui seul est un écosystème qui regroupe toutes les activités autour de la mode en elle-même, que ce soit le stylisme, le patronage, tout ce qui est coupé couture, mais on va plus loin, on va avec des domaines qui sont un peu connexes, que ce soit avec la musique, également aussi le podcast, on va également aussi avec la bibliothèque qui vient aussi enrichir un peu le savoir-faire des entrepreneurs déjà là à l'IRMA, et on va, voilà, c'est tout cet ensemble là qui forme l'IRMA, c'est vraiment tout un écosystème qui est autour de l'industrie régionale de la mode en Afrique.
Bien, et quel état des lieux vous faites de la mode aujourd'hui à RDC? On a appris qu'il y a beaucoup, il y a des talents, il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent dans le domaine de la mode ici à RDC.
Effectivement, les talents, je vais pas dire, ne manquent pas en RDC.
Oui.
Jusqu'à preuve du contraire, nous parlons beaucoup de l'univers de la SAP, qui est vraiment une identité propre au Grand Congo, si on compte et Congo, Kinshasa et
Congo-Brazzaville.
Mais bien, vraiment, il faut maintenant l'affirmer. Il y a une chose, c'est de le promouvoir, mais il n'y a pas vraiment sur un plan, une carte ou bien sur notre, je peux dire, sur notre univers, un endroit où on peut dire, voilà, ici, quand on vient, là, on se concentre uniquement sur tout ce qui est sapologie et tout ça. Donc, l'IRMA aussi vient répondre à ce questionnement-là, en fait. Donc, c'est très important d'avoir cette identité forte. On a effectivement pas mal de talents. On a beaucoup de talents qui sont en RDC, mais pourquoi aller chercher plus loin, sachant que on les a juste à côté. Là où maintenant intervient l'IRMA, c'est vraiment d'aller chercher ces talents-là. C'est aussi de les découvrir, de voir aussi une autre facette de leur personnalité, une autre facette de leur talent, et pourquoi pas de les montrer aussi de nouvelles techniques, parce que une chose est d'avoir les techniques qui sont connues, je peux dire traditionnelles, mais l'autre chose aussi, c'est de les amener vers la perfection. Excusez-moi l'expression, s'il y a encore quelque chose qui manque dans le savoir-faire africain en général, c'est la finition. C'est quelque chose qui est toujours reproché par nos produits qui vont par exemple à l'étranger et autres. C'est des choses qui sont parfois reprochées. C'est la finition, c'est le manque de détails qui est fait. Tout ça là, c'est des éléments auxquels on veut vraiment répondre. Et c'est en cela que le professionnalisme, ou bien certes, il y a déjà un grand travail qui a été fait par les centres de formation. Il y en a beaucoup aussi en RDC, il faut le reconnaître. Et je veux pas quand même, rabaisser le travail de toutes ces institutions-là, parce qu'ils font un énorme boulot, mais nous ne sommes pas là non plus pour les concurrencer. On est là pour compléter une formation initiale. Il y a une formation qui a été faite. Maintenant, nous, on est là pour ajouter cette valeur ajoutée, une plus-value à une formation déjà existante, mais on veut aller plus loin avec des équipements plus sophistiqués, avec un savoir-faire international et en plus du savoir-faire local, et on veut aller aussi plus loin en touchant d'autres domaines, en explorant d'autres univers créatifs. C'est en cela que l'IRMA vient intervenir.
Bien, monsieur Albert Ngandou, vous êtes responsable technique et vous occupez de la formation à IRMA, l'Institut Régional de la Mode en Afrique. Alors parlez-nous de quel est le type de formation que vous donnez, comment ça se passe, qui sont, parlez-nous aussi des entrepreneurs que vous encadrez au sein de votre institut.
Merci beaucoup. À l'Institut Régional de la Mode, nous organisons plusieurs formations. Et actuellement, vu que la mode congolaise, comme on l'a trouvé, c'est un domaine délaissé, qui est considéré comme un domaine des idiots.
Alors, c'est comme ça que les gens considèrent la mode.
C'est comme ça, en fait, quand tu rencontres les entrepreneurs de la mode, on ne sait pas le côté chaud, le côté motivé. Ils ne sont pas motivés parce que je pense que nous passons, qu'ils sont minimisés, négligés. Maintenant, l'Institut Régional de la Mode est là pour valoriser ce secteur et valoriser ces entrepreneurs que je pense qu'ils ont du talent, mais le talent seul ne suffit pas. Cela ne suffit pas, il faut encadrer les talents. C'est pour ça qu'il y a l'Institut Régional de la Mode qui est là et qui organise les différentes formations comme le stylisme, modélisme, patronage, gestion des productions, gestion des collections et couture. qu'on appelle techniciens d'habillement. Et aussi, nous organisons des formations sur la création des marques, comment créer sa marque du début jusqu'à la fin. Et aussi, des formations sur... sur l'obtention des papiers, parce que ce qu'on a remarqué aussi est qu'on a, il y a beaucoup d'états là, bien sûr, il y a beaucoup d'entreprises de mode, mais qui ne sont pas vraiment officielles, qui n'ont pas de structuration, qui n'ont pas de papiers, qui ne sont pas reconnus à l'État.
Mmh. Alors le style. Mais vous les aidez à structurer, voilà, structurer leurs entreprises.
Les entreprises. Et là, je peux dire que, nos entrepreneurs, les entrepreneurs qui passent chez nous sont satisfaits et, je pense que ça aide aussi à l'État de bien savoir quelles sont les entreprises formelles.
Je pense que ces entrepreneurs peuvent peut-être se plaindre comme tous les autres, qu'il n'y a pas de financement. Ils peuvent avoir des idées, ils ont leur structure, ils ont des papiers, voilà, ils ont tout formalisé, mais les financements ne viennent pas. Est-ce que au niveau de Irma, dites-nous par rapport au financement, comment vous arrivez à gérer ce genre de problème là-bas?
Voilà, là, sur ces points, je préfère laisser à M. Gabir répondre à ce point-là.
D'accord.
Parce que moi, je suis pas...
Vous êtes plus dans l'information. M. Gabir.
Concernant le financement, il faut être vraiment clair avec, je peux dire, les entrepreneurs ou bien ceux qui se posent cette question. Il n'y a pas que le financement qui fait tout, en fait. C'est-à-dire que, il faut vraiment détecter la difficulté de l'entrepreneur. Et vraiment, s'arrêter juste sur le financement, ce n'est que, je peux dire, toucher la surface du problème. Peut-être que le problème derrière, c'est vraiment si l'entrepreneur n'a pas vraiment une idée qui est bien conçue, il n'a pas structuré son projet. On ne peut pas parler de financement si le projet n'est pas structuré. On ne peut pas parler de financement si derrière, il n'y a pas des bases de connaissances dans son propre domaine. Donc, ça, le financement ne réglera pas tout. C'est-à-dire que même si on donne un financement à une personne qui n'a rien comme fondement derrière, le financement ne servira à rien. Maintenant, après, l'IRMA aussi vient, c'est pour aider par exemple des personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir des outils, du matériel à disposition, de venir louer des locaux, avoir le matériel et commencer déjà par produire, avant de parler du financement. Donc ça, c'est déjà une étape à prendre en compte. Donc quelqu'un qui veut, qui a son activité, il n'a pas les machines requises ou bien il a une lenteur dans la production, il y a des problèmes de coupure de courant, on est conscient de ça.
Ah, surtout ça.
C'est tout ça. Donc, il ne va pas parler de financement. Ce n'est pas le financement qui va tout régler. Il peut venir commencer petit à petit. Il va d'abord commencer avec une machine. Il essaie de commencer sa production. Il passe à l'échelle. Il commence par augmenter sa production. Et avec les revenus qui va se faire, il va penser plus grand. Donc, nous invitons vraiment les gens à vraiment structurer leur plan de développement. Parce que c'est important. Plutôt que de dire, oui, je veux le financement. Franchement, le financement, il viendra, mais comment? C'est déjà, il faut préparer quelque chose derrière, il faut vraiment le faire. Maintenant, après, derrière, l'IRMA peut soutenir et soutient. Déjà, on a eu des cohortes qu'on a déjà soutenues qui sont allées, après leur formation, rentrer dans des centres culturels, puis qui sont aujourd'hui des porte-flambeaux de cette formation. Puisque je tiens à souligner que l'Institut Régional de la Mode en Afrique, ça forme des entrepreneurs de toute l'Afrique centrale, que ce soit de la Centrafrique, du Cameroun, mais également aussi du Congo Brazza, nos voisins, mais également je ne sais pas si j'ai cité la Centrafrique, le Gabon également.
Oui.
Donc c'est ça. Et je
mais est-ce qu'aujourd'hui on a des marques made in Congo aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Des marques dans le domaine de la mode.
On a des marques made in Congo. On a des marques made in Congo. Or, ainsi de suite, mais on a des marques made in Congo. Il y a des marques qui sont faites.
Des entrepreneurs que vous avez eu encadrés.
On a commencé nos activités. Bon, vous savez, l'Institut Régional a été vraiment inauguré le 25 septembre dernier, 2025. Donc, on a une année d'activité bientôt.
D'accord.
On a quand même bien avancé avec nos entrepreneurs. Il y en a aujourd'hui qui sont des porte-flambeaux, comme je viens de le dire, que ce soit à l'Est, à Goma, qui ont été formés et qui aujourd'hui continuent par transmettre cet apprentissage-là et qui ont aussi des partenaires et des partenariats. Maintenant, après parler d'une marque qui a, je ne vais pas dire qui se démarquent,
voilà,
qui s'imposent sur le marché.
Il y en a
quand même qui s'en sortent bien, mais c'est un suivi en fait. On ne s'arrête pas juste après un an ou bien six mois, on a toutes les connaissances, on sort. Non, c'est-à-dire qu'il y a un suivi qui continue. Il y a comment l'appelle-t-on ? Il y a ce suivi là qui se fait avec ces entrepreneurs pour continuer à comprendre comment ça évolue. Ils ont aussi derrière ce qu'on appelle des mentors qui les accompagnent. Et ces mentors, c'est des marques locales qui les accompagnent, des marques locales et internationales qui on met à disposition des mentors qui sont de ces marques-là qui peuvent continuer par donner ce boost-là à ces entrepreneurs pour les aider à aller de l'avant. Mais oui, il y a des marques quand même qui s'en sortent bien.
Justement, comme Nyota Présidentiel, qui est une marque qui est en train de se démarquer aussi parce que c'est des jeunes.
Comment ça s'appelle, comment?
Nyota Présidentiel.
Nyota Présidentiel, ok.
C'est une marque qui est en train de se démarquer. Elle habille Inosbi, Fabregas, a fait Irma est là aussi pour diriger les jeunes à se retrouver dans la mode. Et c'est une des marques encadrées par Irma qui est en train de se démarquer actuellement. Et le côté financement aussi, comme vous venez de le dire, Irma est comme charnière qui relie le créateur, la marque, le jeune. Et le bailleur des fonds.
Alors, si les business angels. Voilà. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent à ces domaines-là, là? il y en a quelques-uns. Bon, je vais donner la parole à M. Emmanuel Kazadi, qui est responsable de la bibliothèque et Microfolie.
Exactement.
Qu'est-ce que ça veut dire, Microfolie?
Microfolie, c'est juste...
Un peu de folie, quoi.
C'est ce que les gens disent. C'est la petite folie. Non, pas du tout. La Microfolie, c'est un dispositif numérique, de musée numérique, appartenant à la Villette. Et puisque, voilà, Irma a cette partie-là du musée numérique Microfolie, c'est-à-dire que vous pouvez visiter pas mal d'œuvres muséales de musées, des grands musées du monde en étant dans la Microfolie via des tablettes, via des casques de réalité virtuelle également. C'est ça la Microfolie. Mais pour parler d'abord de la bibliothèque BiblioArt, c'est justement cette bibliothèque dédiée à tout ce qui est œuvre d'art, à tout ce qui est manuel touchant ou abordant l'art en général. Et puisque nous sommes dans Irma, donc il y a pas que des œuvres littéraires en rapport avec l'art, mais il y a également des œuvres en rapport avec la musique, en rapport avec l'entrepreneuriat, en rapport avec la culture, en rapport avec l'histoire, en rapport avec, bref, le roman littéraire également. Donc, parce qu'il y a des gens qui se disent, puisque c'est une bibliothèque biblio-art, donc il n'y a que des manuels en rapport avec l'art.
Pas du tout.
Il y a une représentativité en termes des thématiques. Il y a déjà 13 thématiques différentes et où l'on trouve vraiment une représentativité en quelque sorte.
Mais est-ce que les entrepreneurs lisent? Parce que souvent on dit, si vous voulez cacher une connaissance à un noir, bon, je sais pas si c'est raciste de ce genre de propos, faut le cacher dans les livres, mais est-ce que vous êtes avec les entrepreneurs? Est-ce que réellement ils lisent?
Exactement, ouais. Là, j'aimerais quand même parler de monsieur Jospin, je sais pas s'il va nous suivre. C'est un monsieur qui vit au Sankourou.
Okay.
qui une fois a visité la bibliothèque, c'est-à-dire il avait quitté les Sankourou pour visiter la bibliothèque Irma qu'il avait vue sur le réseau, tout simplement parce que il y a des personnes qui s'intéressent à la lecture. Dire que les entrepreneurs ne lisent pas, c'est dire au fait que tout le projet qui existe en vrai c'est utopique, alors que c'est pas le cas. C'est-à-dire que les gens lisent, les Congolais, l'Africain lit. Tout le problème c'est trouver de l'intérêt, et c'est ça même la vision même de Irma, parce que Irma, au travers de sa bibliothèque BiblioArt, offre un espace où, c'est-à-dire tous les acteurs du livre, c'est-à-dire les éditeurs, les auteurs, ont de la place. C'est-à-dire si vous avez un livre à vous, par exemple, vous pouvez facilement trouver de l'espace pour assurer le vernissage, le baptême de votre livre. Et ça, c'est une offre que même notre bibliothèque présente à tous les acteurs de la chaîne du livre. Et si vous avez...
Et vous avez un fonds documentaire de combien d'ouvrages aujourd'hui?
Ouais, nous avons un fonds documentaire de plus de 1200 livres qui sont appelés à évoluer également d'ici encore septembre.
Avec une bibliothèque numérique aussi.
Bibliothèque numérique, c'est-à-dire que nous avons des partenaires comme Bibliothèque Sans Frontières qui nous équipe également d'un dispositif, l'IDS Cube, qui est un boîtier qui nous permet d'avoir accès à plus de 300-500 contenus numériques et via des tablettes également. Mais il y a également également un site web que l'on a créé qui permet de faire des réservations pour tous ceux qui s'intéresseront à la bibliothèque et tout, à la lecture.
Ouais. Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la mode, comment promouvoir l'entrepreneuriat. Dans le domaine de la mode, nous avons déjà deux auditeurs en ligne. Bienvenue Kikala qui nous appelle depuis Kikwit et Blaise Saïdi depuis la ville de Kisangani. Bienvenue Kikala, bonjour. Allô, bienvenue, merci d'ouvrir vos micros. Vous êtes à Kikwit. Bienvenue Kinkala. Bonjour. Allô? Bien, je vais passer au deuxième intervenant, Blaise Saïdi depuis la ville de Kisangani. Bonjour. Blaise Saïdi, merci d'ouvrir vos micros, s'il vous plaît. Là, on vous entend pas. Nous parlons de la promotion de l'entrepreneuriat dans le domaine de la mode. Blaise Saïdi, vous êtes là? Allô? Voilà, le micro est fermé, on vous entend pas, monsieur Saïdi. Mais merci d'ouvrir votre micro. Bienvenue Kikala également. Merci d'ouvrir les micros pour nous permettre de vous entendre. Voilà, je reviens à vous, monsieur Kabirati. Vous êtes responsable du programme Kobo Hub. Alors, une autre question est de savoir, aujourd'hui, on a l'impression que les consommateurs, ils préfèrent consommer beaucoup plus la mode des styles de vêtements venus d'ailleurs, en regardant les films et tout ça. Les gens, voilà, c'est ça qu'ils veulent porter. Mais maintenant, les entrepreneurs locaux sont un peu, voilà, négligés, si on peut le dire ainsi.
Merci pour la question. Les entrepreneurs locaux ne sont pas tant que ça négligé. Je dirais peut-être que c'est la stratégie employée qui peut différencier d'une marque à une autre, hein, parce que aujourd'hui, même si on arrive à voir ce qui se passe à l'étranger ou bien à l'extérieur et copier un peu le style vestimentaire et autres, c'est vraiment une stratégie qui est mise en place. Maintenant, à la RDC aussi, la RDC n'a rien à envier, hein, je tiens à vous le rassurer. Aujourd'hui, vous avez des artistes comme Koffi Olomide, le papa Wemba qui portait des tenues qui étaient quand même atypiques, qui étaient aussi créées par des marques congolaises et qui, derrière aussi, ont suscité l'intérêt du public, c'est-à-dire que la curiosité, on a envie de savoir qui l'a habillé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est à cela aussi, comme on a pris l'exemple de Dinos B, qui s'habille aussi chez un de nos créateurs, qui, grâce à ses concerts et autres, il a des tenues qui sont atypiques et qui suscitent aussi l'intérêt. Donc, c'est aussi une autre manière aussi d'inciter aussi la population ou bien une certaine branche de la clientèle aussi à voir aussi cette manière de s'habiller et de dire ah ouais, ça aussi j'ai envie de m'habiller de cette manière, ça me plaît, c'est joli, qui est la marque qui l'habille derrière, comment est-ce que je peux la contacter. Voilà, c'est aussi des manières de promouvoir aussi le style vestimentaire. C'est en cela aussi que voilà, comme je disais, le hub aussi veut le hub, bon, je parle de l'Institut Régional de la Mode, l'IRMA veut aussi y remédier en mettant en place tout un écosystème autour. Une personne qui veut vraiment mettre en place une certaine communication, une certaine mise en avant de ses produits, elle peut tranquillement, elle vient là son atelier, elle vient prendre louer par exemple une machine, elle commence sa production. À côté, il y a juste un studio photo, elle va prendre les photos, elle fait des photos professionnelles, des shootings professionnels, elle met en avant et elle peut aussi inviter, elle peut aller voir à côté, il y a des studios musicaux où un artiste vient se produire pendant ses enregistrements. On parle partenariat, on parle en même temps négociation et tout ça, on se met dans une collaboration avec cet artiste là on met en avant sa création. Donc il y a l'environnement pour maintenant aux entrepreneurs de faire le pas, aux personnes de venir voir un peu, de venir visiter l'IRMA, de voir un peu tout ce qu'il y a autour, tout ce dont on parle, parce que vous avez tout un complément. Vous avez le côté bibliothèque Microfolie que monsieur Emmanuel gère, où voilà, on vient, on apprend, on comprend, on essaie aussi d'aller dans l'essence du vêtement, dans l'essence du pagne. Aujourd'hui, on a pas mal de créateurs, pas que en RDC, je vous rassure, un peu partout, qui font de la reproduction, qui prennent des tissus, qui ne comprennent pas le sens du tissu, pourquoi ce tissu, à quoi
chaque tissu a une histoire.
Chaque tissu a une histoire, en fait. Okay. Et il y a une manière de le travailler, il y a une manière de le faire, comment appelle-t-on, mettre en valeur. Donc il y a un sens derrière les tissus et les pagnes que les gens portent. Donc aujourd'hui, il y a ce travail de recherche qu'il faut faire. C'est pas non plus cher à demander. La personne vient, elle se renseigne, elle lit, elle se documente, elle apprend à voir, elle comprend aussi comment est-ce qu'on s'habillait avant, comment est-ce qu'on s'habille aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut voir l'évolution de la tenue. Et c'est en cela qu'on arrive à influencer aussi son entourage, on arrive aussi à imposer une vision de la mode, mais sans pour autant brider ce qui a déjà été fait. Donc on peut s'inspirer des créations existantes et on peut aussi passer de cette inspiration-là pour avoir de nouvelles créations. Mmh. Donc franchement, j'invite vraiment le grand public intéressé à venir voir un peu l'écosystème, essayer de lire un peu, essayer de se cultiver, d'approfondir ses connaissances, ensuite de venir voir un peu les machines qu'il y a, de venir aussi à côté, pourquoi pas aller dans les studios, un peu voir le studio photo, comment est-ce qu'il peut avoir des collaborations avec des artistes musicaux pour mettre en valeur. Voilà, il y a pas mal de possibilités maintenant. Il faut vraiment savoir l'explorer.
Les explorer, oui. Monsieur Albert Ngandou, combien de machines vous avez aujourd'hui? C'est industriel, c'est professionnel, voilà.
Justement, nous avons plus de 35 machines au total, industrielles. Ce sont des piqueuses plates industrielles. Et on a des machines sophistiquées, spéciales, comme des machines pour faire le boutonnière.
Le surfilage.
Le surfilage, on peut le trouver partout actuellement en RDC. Oui. Mais on a des machines comme de broderie numérique qui travaillent à partir de l'ordinateur. Donc c'est vraiment sophistiqué et je pense qu'on a des machines spéciales qui permettra aux jeunes d'avoir des produits bien finis.
D'accord. Est-ce que vous collaborez par exemple avec les jeunes qui sont... Il y a un institut ici qui forme l'ISAM,
ouais.
Par exemple. Est-ce qu'il y a un cadre de collaboration avec... avec ces structures-là.
Bon, moi-même aussi, j'avais fait l'ISAM, j'avais fait le design textile, stylisme et création des modes.
Ok, vous avez fini
là-bas. À l'ISAM. Oui. Donc, dire qu'on ne collabore pas, c'est puis dire. Mais bon, je pense que on a beaucoup d'entrepreneurs de l'ISAM qui viennent à l'Institut Régional de la Mode pour coudre, pour se faire former côté technique. Et voilà, je pense que c'est ça.
D'accord. 085 42 11 547. Appelez-nous à ce numéro pour intervenir dans cette émission. Bienvenue Kinkala depuis Kikwit. Vous êtes là. Bonjour.
Bonjour, cher. Je dis bonjour à tous les deux invités.
À tous les trois. Hein, ils sont au nombre de trois. On vous écoute.
Ah, je m'excuse. Ok. Je passe le sujet à l'échange. Il y a des fois que les gens ne considèrent pas certains domaines. Mais moi, je me dis, c'est un secteur où ça peut créer autant d'emplois et puis générer aussi beaucoup d'argent qu'on pouvait le penser. Moi, je connais une amie, quand j'habitais encore Kinshasa, si je peux faire un coucou, elle s'appelait Made. Elle venait de l'est du pays, qui faisait vraiment des très beaux trucs. Mais vous sentez que, en dehors de cet esprit imaginaire, de tout ce qu'il pensait, mais... Il y avait un as, moi je le disais à chaque fois, parce qu'on était aussi dans un centre de formation en entrepreneuriat. Moi je lui disais toujours qu'il manquait un peu un esprit. Je l'ai suivi, un des invités l'a dit. Les petits détails, vous sentez qu'il pouvait aller plus loin, mais quelque part,
la finition.
Oui, la finition se limite en cours de route. Nous sommes dans un marché où nous avons les produits qui viennent d'ailleurs maintenant là, ça fait un peu de l'honneur quand on dit, moi, je porte du Turquie, je porte ceci. Où vous voulez vous intégrer dans un marché, vous devez veiller vraiment aux petits détails. La deuxième chose, j'ai bien suivi les trois invités. Ils sont en train de vanter les machines qu'ils disposent. Est-ce qu'à leur niveau, ils ne pouvaient pas organiser soit des journées ou des activités pour impliquer aussi cet esprit dans les chefs des Congolais de consommer aussi les produits locaux? Parce que nous pouvons avoir des entrepreneurs dans ces domaines-là qui font bien leur travail, mais tant qu'il n'y a pas assez de consommateurs, ils finiront par moment de mettre la clé sur la porte, parce que si vous produisez, vous n'avez pas de consommateurs, j'ai doute fort qu'une entreprise dans ce sens-là peut exister pendant longtemps. Parce que le tout part de là. Nous n'avons pas cette culture de consommer nos produits locaux. Ça aussi, c'est un petit problème. Peut-être ils pouvaient aussi aider les entrepreneurs à travailler ces taxes-là.
Bien, merci beaucoup, bienvenue Kinkala depuis Kikwit. Blaise Saïd, vous êtes à Kisangani, bonjour. Allô, Blaise, bonjour. Allô.
Bonjour, cher Jody.
Oui.
Bonjour. Allô, allô, allô. Vraiment, je dois aller plus juste. Ah, oui. Donc,
il y a beaucoup de bruit là. Est-ce que vous êtes en train d'écouter de la musique?
Vous voyez que la chercheuse de Made in Congo. Oui, vous savez que la chercheuse de Made in Congo.
Oui. Oui, on vous écoute. Allô?
On ne passe pas la théorie à la pratique. Made in Congo, c'est un slogan seulement. Je suis à Kisangani ici, où il y a faillite de la Sotexi. Mais les gens veulent aller ailleurs pendant que non, la Sotexi est ici. J'interpelle le gouvernement de faire d'urgence pour ramener cette société en œuvre. Made in Congo, j'insiste que non, c'est juste les slogans. Je dois aller à quelques questions, cher Jody.
Oui.
La première question, quels sont les principaux défis rencontrés par les jeunes qui souhaitent entreprendre dans le secteur de la mode en RDC? La deuxième question, quelles stratégies peuvent être adoptées pour faire connaître Made in Congo sur le marché international? Troisième question, quelles sont les compétences essentielles pour réussir dans les domaines de l'entrepreneuriat de la mode? Je me limite à ces trois questions, vu que non, il n'y a que trois invités. Donc, parmi les invités, chacun peut répondre à une question. Je vous remercie.
Bien, merci pour toutes ces préoccupations. On commence avec vous, Monsieur Emmanuel Kazadi.
Merci beaucoup. Je dois le dire, merci encore à ces auditeurs qui, avec des questions pertinentes. Le Made in Congo, je dirais pas que c'est utopique, c'est pas imaginaire. Parce que, certes, la réalité est que il y a un travail à faire. Et si d'ailleurs IRMA existe, qui encore jusqu'alors c'est l'institution qui accompagne pas mal d'entrepreneurs évoluant dans les secteurs de la mode, le travail, au fait, doit s'observer un peu sur avec tous les acteurs. L'auditeur qui venait de poser la question, par exemple, c'est pas encore si qu'est-ce qu'il fait dans le domaine de je sais pas trop retenu, mais j'aime dire au travers, par exemple, des initiatives de sensibilisation communautaire pour faire comprendre aux gens que j'ai aussi intérêt, quand j'utilise une marque de Made in Congo, je mets en valeur ce que les créateurs nous sont en train de faire. Je me rappelle d'une médiation qu'on avait organisée à la bibliothèque autour du génie créatif Kuba. Et au travers de cette médiation, on arrive à découvrir combien le génie créatif du roi Songhai, qui a mis en place tout ce qu'il y a comme création Kuba, il a dû travailler avec toute la communauté. De telle enseigne que les femmes ont occupé une place très importante dans la transmission de ce génie créatif. Utiliser les tissus Kuba, tout ce qu'il y a comme tissage de ces tissus, c'est les femmes
en
qui
raffia,
le faisaient. En raffia, c'est les femmes qui le faisaient et elles transmettaient cette connaissance aux enfants. Et c'est aujourd'hui c'est l'un des tissus qui sont qui du moins est mis en avant ici chez nous au Congo. Et pourquoi? Parce que il y a un travail qui doit se faire aussi. La communauté congolaise doit également s'approprier ces innovations ou c'est ce qui nous appartient en termes de culturel, en termes des tissus, pour le mettre en avant sur nos réseaux sociaux. C'est en quelque sorte ça ce que je pourrais d'abord dire, et je laisserai la parole à Monsieur Kabira.
Monsieur Kabirati.
Ok, merci beaucoup d'abord pour les éléments de réponse qu'a apporté mon collègue Monsieur Emmanuel. Ce que moi je peux ajouter aussi, je vais profiter aussi répondre à une autre question du premier auditeur qui concernait comment est-ce qu'il faut se faire connaître, sachant que on organise très souvent des séances, des journées portes ouvertes. Je l'invite aussi.
Bah d'ailleurs, il vous demande d'en organiser.
On a encore un combat organisé en fin de ce mois de juin, ce 27 juin, il y a une journée portes ouvertes encore qu'on a organisée. On va continuer par faire ce travail de sensibilisation pour que les auditeurs et auditrices puissent aussi connaître le lieu, venir aussi visiter, avoir une bonne idée de ce que nous faisons comme activité. C'est vraiment un appel que je fais aussi à tout le monde de pouvoir, via des connaissances qui sont à Kinshasa ici, qui peuvent venir faire des petites visites pour eux, prendre des photos, leur envoyer, si ça peut les inspirer, pourquoi pas, à venir. Je voudrais aussi saisir aussi l'occasion parce que, comme ambassadeur aussi, on a pas mal de nos entrepreneurs qui viennent soit du du Congo central, soit aussi de l'Est, qui viennent aussi en formation, qui apprennent et qui retournent aussi pour faire ce travail de, voilà, de restitution de ce qu'ils ont appris à l'IRMA, et de pouvoir aussi expliquer à leur entourage aussi, voilà, comment s'est passée la formation, que ce qu'ils ont pu apprendre et comment est-ce qu'il faut mieux valoriser aussi le Made in Congo. Et donc, encore pour aller dans la voie de mon confrère, je dirais que voilà, le Made in Congo, c'est on l'a déjà, il est là. Après, il faut juste le cadrer, il faut qu'on puisse, je pourrais dire, il faut qu'on puisse continuer par mieux le travailler, je peux dire, mieux l'internationaliser. On a fini par suivre d'autres modèles. J'entends parler ici par là, soit de K-pop, soit de modèle indien. On est là, on voit ce qu'eux, ils arrivent à faire. Maintenant, nous aussi, on a notre modèle. Maintenant, comment encore le mettre en avant, c'est d'autres partenariats. Et c'est un ensemble. C'est vrai qu'il a parlé des institutions privées et publiques plutôt, mais c'est de la complémentarité que tout le monde fait. C'est-à-dire, les institutions publiques sont là, ils font leur travail. Les institutions privées aussi sont là en complément. Et nous avons les institutions internationales aussi qui viennent aussi de temps en temps pour voilà, donner ce boost-là au secteur. Il dit quelque chose qui est intéressant aussi, c'est en termes de potentiel, de chiffre d'affaires, les industries culturelles et créatives à eux seuls rapportent pratiquement 3 000 milliards de dollars par an. Seulement les industries culturelles et créatives, ça fait le cinéma, tout ce qu'il y a autour. Donc c'est déjà...
Donc il y a pas mal d'opportunités là-bas.
Il y a pas mal d'opportunités. C'est un vivier vraiment de fonds. Et quand c'est aussi plus de 3 millions d'emplois qui se créent de temps en temps, chaque fois. Donc c'est vraiment une opportunité. Faut pas se sentir petit autour de tout ce qui a été déjà fait, mais il faut se différencier. C'est en cela que on est là pour comme centre créatif. Donc l'Institut de la mode est là comme centre créatif, c'est aussi chercher à se différencier des autres. On se noie quand on ressemble à tout le monde, quand on n'a pas son identité propre, quand on n'a pas sa propre touche. Il y a la finition, il y a aussi sa touche personnelle. Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît une tenue en disant Zara, qu'est-ce qui fait que ça
c'est telle marque,
Jean-Paul Gaultier, c'est telle marque. C'est parce qu'il y a quelque chose, une identité derrière qui permet de retrouver immédiatement la marque. Donc c'est à nous de créer aussi ce mythe, de donner aussi une histoire à cette tenue. Et franchement, l'Institut régional de la mode aussi, il travaille, et c'est ça aussi notre challenge, c'est aussi d'amener cela. Et bien sûr, il y a pas mal de projets qui sont en cours et à venir, qui nous aideront encore à...
Des défilés des modes, l'exposition.
Des partenariats avec des marques américaines, des marques françaises. Tout ça, là, c'est aussi pour faire connaître la marque au-delà des frontières. Et c'est aussi pour faire connaître aussi le travail, le savoir-faire congolais à l'échelle internationale. C'est tout ce travail-là que l'Institut de la mode fait.
Mais quelqu'un a dit tout à l'heure, vous pouvez bien avoir votre marque Made in Congo, mais il faut avoir des marchés. Parce que vous pouvez produire aujourd'hui, mais quand vous n'avez pas de consommateurs, il n'y a pas de marché, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous devenez?
Non, c'est pas tant qu'il faut pas juste se calquer sur le fait que, ah non, si j'ai ma marque, mais j'ai pas de marché. D'ailleurs, avant de faire une marque ou bien avant de faire un style de tenue, on fait quand même une étude de marché. On essaie de comprendre un peu quelles sont les tendances. Comment est-ce que ça, qu'est-ce que je peux créer qui va pas susciter l'intérêt, mais actuellement, quel est le type de tissu? Là, par exemple, je prends un exemple tout simple. On a comme valeur sur le Kuba, le Raffia et autres. Aujourd'hui, c'est des tenues qui sont très portées pour des événements, des mariages, des
mariages coutumiers,
voilà,
tout ça
là. Donc c'est une des opportunités que je cite là. Maintenant, à travers cela, le créateur ou bien la créatrice va voir comment est-ce qu'il peut toucher, par exemple, des centres de, je sais pas moi, de cérémonie et tout ça pour proposer de ce genre de tenues. Donc il essaie de voir si c'est sa cible. Donc franchement, c'est comment est-ce que l'entrepreneur ou bien le styliste peut choisir ses cibles, peut choisir son marché. C'est ça qui va déterminer l'évolution de son marché. Donc il n'est pas juste question de faire son produit, faire du mannequin et ensuite d'attendre le marché. Non, on observe son environnement, on l'étudie avant de sortir un produit.
Et il faut du marketing, hein. Il faut beaucoup travailler les aspects marketing. Monsieur Albert Ngandou, quelles sont les tendances actuellement sur le marché? Qu'est-ce que les consommateurs veulent? Quels sont les produits qui se vendent mieux, quoi?
Merci. J'aimerais revenir d'abord sur la question du deuxième auditeur, sur le problème qui rencontre les jeunes créateurs, entrepreneurs, en RDC. Je peux dire qu'il y a énormément de problèmes liés à l'électricité, liés également au tissu, Parce que l'RDC, comme vous le savez, n'a pas des industries textiles, n'a pas des industries de mode.
Oui. Il y avait la Sotexki, quelqu'un avec Sangani
a parlé de la Sotexki. J'avais passé mon stage là-bas.
Ah, vous avez passé votre stage à la Sotexki.
Ah oui. Après, il y a aussi Texico qui est à la 12e rue. Mais il n'y a plus de production là-bas. Il n'y a plus de production dans le sens où il n'y a plus de financement. Et ça, c'est des problèmes un peu très graves pour les entrepreneurs.
Actuellement, on utilise le wax qui est importé.
Ah oui,
ça vient d'où? De la Hollande.
De Ghana, de Chine.
Les tissus qui viennent de l'Afrique de l'Ouest.
Ouais. Et il faut que le RDC arrive à produire ces tissus. Que la RDC ait des industries textiles, des industries de mode pour essayer de valoriser ces stylistes et ces modélistes. Et il y a aussi le problème, comme je le disais, d'électricité, coupure d'électricité qui est permanent. Il y a aussi le problème de machines, disons, problème des infrastructures. Disons de couture. Les gens, les jeunes n'ont pas accès parce qu'au début, quand tu débutes, t'es à couture, t'as pas assez de moyens pour te payer de bonnes machines capables de te permettre de produire vite et satisfaire le client. Et c'est plus compliqué pour le jeune d'avoir ces moyens-là au début. Mais c'est justement pour ça qu'il y a Irma qui est là, qui fait aussi des locations de machines à coudre où l'électricité est là, 5/5. Tous les jours. Donc, nous sommes là, on sait qu'il y a des difficultés, il y a énormément de problèmes, les jeunes rencontrent énormément de difficultés dans ce secteur-là, car c'est, comme je l'ai dit au début, c'est abandonné. Mais je pense qu'actuellement, nous sommes en train de travailler dessus pour résoudre quand même les problèmes, même à 80%.
Monsieur Achille nous écrit, Achille Kassongo, il dit ceci, impossible de parler de la promotion du Made in Congo tant que les stylistes peinent à protéger leurs créations et à rivaliser avec les grandes marques étrangères déjà bien implantées sur le marché. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, hein, monsieur Manuel?
La sécurisation ou la protection de la marque, c'est l'un des éléments aussi importants si on veut mettre en avant le Made in Congo. Parce que après, je me dis... Ça part un peu dans le sens de mes prédécesseurs qui soulèvent le fait que les entrepreneurs évoluant dans la mode ne se soucient pas parfois du développement de leurs compétences. Parce que, après, vous voulez investir dans un secteur qui déjà est saturé par des acteurs externes et tout, étrangers, pas de problème, et on veut mettre en avant notre marque à nous. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois apprendre comment ça fonctionne. Parce que l'internalisation de la marque, ça marche par des principes qui, nécessairement, l'acteur ou la personne qui veut s'y investir doit nécessairement apprendre. Et c'est ça, au fait, la vision de l'Irma. Parce que tu veux internationaliser ta marque, mais tu ne veux pas apprendre comment je dois sécuriser cette marque, comment je dois respecter l'ADN de même l'ADN de la marque, du branding, parce que la matière première que j'utilise, d'où provient-elle, comment elle a été confectionnée, elle a été travaillée. C'est tout ça au fait que même Irma, au travers des différentes formations qu'elle organise, propose cet accompagnement. L'idée avec l'Irma, c'est quoi aussi? C'est surtout d'aider tous ceux qui sont dans ces secteurs d'activité d'arriver à implémenter ces marques-là en respectant les trois principes phares qui vont avec, en respectant l'ADN de la marque, en respectant comment protéger sa marque, en travaillant également sur la communication de sa marque avec le numérique.
Le marketing,
tout ça. Parce que c'est important, au fait, c'est tous ces éléments qui arrivent à imposer.
Aujourd'hui,
le
numérique est indispensable.
Très indispensable, parce que, bon, disons-nous, comme M. Kabir le disait tantôt, dans deux mariages, on observe que c'est pas mal. Mais un Congolais qui se marie alors que nous avons des tissus, les tissus Kuba entre autres, pour ne citer que ça. Mais voilà, la personne utilise d'autres marques, d'autres tissus africains. Bon, pour dire, la question c'est, n'avons-nous pas de tissus ici,
ici sur place?
Alors que si on a 100 mariages où 100 Congolais arrivent à mettre en avant ces tissus, ça va déjà faire quelque chose en termes de communication, en termes de mise en valeur de nos tissus. Et avec l'intervention de tous les acteurs, ça va faire quelque chose d'intéressant.
Bien, on va accueillir Monsieur Ismaël Mopoi depuis Lubumbashi. Nous parlons de l'entrepreneuriat dans les domaines de la mode. Ismaël, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kassongo. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
Ah, merci beaucoup. Cette thématique
C'est une très bonne thématique qui peut quand même redresser les gens en vue de revenir pour notre monde et plus Made in Congo. Mon humble avis, je pense que ce que nous faisons maintenant comme monde, c'est une importation d'habillement qui vient d'ailleurs. Dit-on, nos mamans africaines portaient les Igida, la tissu Kuba, la tissu Mongo, c'est ça ce qu'ils portaient. Mais aujourd'hui, il est tellement difficile de trouver nos mamans s'habiller comme ils s'habillaient auparavant. Qu'est-ce qui arrive? Parce que nous n'avons pas de société qui façonne les matériels qui peuvent permettre à tous ceux qui cherchent à métamorphoser notre monde ou à s'investir dans le monde. Il est tellement difficile. Qu'est-ce que nous pouvons faire ou qu'est-ce que nous pouvons conseiller à ceux qui veulent s'investir? Ou la part aussi de responsabilité revient aussi à l'État. Parce qu'on avait sauté ski du côté Kisangani, mais présentement, il n'y a plus une industrie qui fonctionne en RDC pour le pagne, pour certains tissus, qui peut permettre à ce que ceux qui veulent s'investir dans le monde puissent aller de l'avant. De trois, nous avons compris que nous n'avons rien à développer sur place, plutôt que ce sont les habits que nous prenons, qui viennent d'ailleurs, au lieu de porter correctement, ce sont des dînes déchirés, mais tout cela fait partie aussi de la mode. Mais en plus, nous avons perdu plus notre culture. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans les jours à venir? Il a fallu assez qu'on encourage, comme la rafia de Kuba, celle de Mongo, les consorts, ça peut aider aussi les autres. Mais tant qu'il n'y a pas les matériels pour développer notre mode, je ne pense pas que ça peut aller. Et nos mamans, parce que dit-on, quand quelqu'un portait un habit, ça décrivait aussi sa qualité et sa manière d'être. Aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi, qui porte quoi normalement. Même des petits-enfants, nous les laissons à moitié nus. Et les modélistes doivent aussi l'idée, envie de nous faire quand même certaines choses de qualité qui doivent représenter nos cultures. Tel que quand on regarde ça, c'est une femme mariée, qui est un peu une différence. Voyez un peu tout ce qui nous vient d'ailleurs. Bon, ce sont des choses où, là, dans les commerces, bon, nous avons adopté un comportement qui vient des Occidentaux. Nous avons oublié notre culture. L'invité qui est là peut quand même insister par rapport à cela, pourvu que nous utilisons ce qui est à notre pays. Notre argent ou notre commerce, même les mondes d'aujourd'hui, est tourné vers l'extérieur, que s'il les liés, il ne se base pas sur ce qui se faisait autant. C'est ça ce que j'avais à vous dire. Merci.
Merci Ismaël Mumpoy depuis Lubumbashi. Monsieur Kabirati, qu'est-ce que vous répondez? Quelle réponse vous pouvez donner à monsieur Ismaël?
Je dirais qu'il allait quand même dans notre sens, puisqu'il y a pas mal d'éléments qu'on a déjà brossés dans nos différents sujets, et notamment tout ce qui est mis en valeur, c'est des choses que l'IRMA promeut et en a fait son ADN, notamment ce qu'on appelle nous la mode à impact. C'est vraiment de notre marque de fabrique, c'est sensibiliser l'entrepreneur à travers un programme d'accélération de 6 mois à vraiment se concentrer sur, je peux dire, que ce soit sur tout ce qui est produits récupérés, tissus de rechute et tout ça pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc à la base, il y a un point d'honneur qu'on met sur la créativité, et je voudrais pas non plus aller trop dans les détails, mais à travers ce qu'il disait en disant, ah ouais, est-ce que nos entrepreneurs pourraient s'inspirer de ce que nous faisait, c'est un travail qui se fait à l'IRMA déjà, et dans nos programmes de formation, c'est des choses qu'on ramène dans l'apprentissage de nos stylistes, modélistes et autres. C'est de les ramener à l'essence des choses, et de les ramener vers le passé, de les faire comprendre mais comment est-ce qu'on s'habillait, qu'est-ce qu'on avait comme identité créative, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut revoir le style vestimentaire de demain, mais tout en respectant le côté, je vais dire, écologique, mais aussi en étant le moins comment on l'appelle, dans le côté du gaspillage. Donc il faut vraiment faire des tenues avec moins de gaspillage et plus d'authenticité. Donc c'est vraiment l'ADN de l'IRMA, de travailler sur ces aspects. C'est des aspects sur lesquels nous travaillons déjà, comme je vous ai dit, depuis plus d'un an, mais quand même on continue par mettre des efforts pour permettre aux gens de mieux connaître l'Institut régional de la mode, de venir connaître les lieux si appropriés, l'endroit.
Vous avez dit, c'est quand la prochaine journée?
Le 27 juin.
Le 27 juin, c'est
ça. Ok. Donc, c'est un samedi. Donc, ça permettra aussi à tout le monde de pouvoir venir aussi voir les activités en vrai, de pouvoir aussi poser toutes les questions qu'ils veulent.
Les questions possibles.
C'est ça. Et de voir aussi les autres en action, parce qu'il y a déjà pas mal de formations en action. C'est aussi important de pouvoir déjà booker ses places et tout ça pour avoir ce savoir-faire.
Vous avez dit les formations, c'est après chaque 6 mois, c'est ça?
Non, ça, il y a plusieurs types de formations. On a des formations à cycle long et des formations à cycle court. Donc, les formations à cycle long, c'est du genre, comment appelle-t-on? C'est la formation, entreprendre dans une mode à impact, dont je viens de parler tout à l'heure, qui est une formation, notre formation phare, c'est vraiment notre marque de fabrique. C'est une formation dans laquelle, voilà, l'incubé ou bien la personne formée est formée sur un cycle de 6 mois assez intensif, et où il doit allier savoir-faire technique et savoir-faire entrepreneurial. Donc, il a pratiquement 3 cycles à parcourir. Donc, il y a un premier cycle où, voilà, il doit avoir une certaine, un certain retour sur son passé, voir un peu son identité de marque, qu'est-ce qui le définit par rapport aux autres, comment est-ce qu'il peut voir la mode différemment. Ensuite, il y a une partie technique où ils vont dans la coupe et couture, avancer plutôt, ils vont dans le patronage, où ils vont encore dans d'autres domaines. Mais après ça, ils vont aussi utiliser les outils 3D, modéliser aussi comment modéliser des tenues, et aussi utiliser le moins de tissus possible. Parce que le gaspillage, c'est un mal, en fait. Ouais. L'industrie de la mode est l'une des industries les plus polluantes. Donc le gaspillage, c'est aussi un problème. C'est quelque chose qu'il faut réduire au maximum. Et c'est en cela aussi que ces formations-là viennent appuyer. Et après ce premier cycle-là, il y a un deuxième cycle où ils travaillent avec des marques internationales. On appelle ça la collaboration pédagogique. Et ça, c'est le deuxième cycle. Et au troisième cycle, maintenant, ils ont des connaissances sur les droits d'image, les droits d'auteur. Notamment, c'était une problématique aussi qui avait été citée tout à l'heure. Ils ont aussi des connaissances sur comment lever des fonds, où aller chercher des partenaires financiers, ainsi de suite. Et où il y a aussi un côté entrepreneurial. Quel modèle économique je vais choisir? Comment est-ce que je vais vendre mon produit? Ainsi de suite. Donc, c'est tous ces 3 cycles-là qui font ce parcours de 6 mois. Et c'est vraiment un parcours très...
Donc, au bout de cette formation, l'entrepreneur a tous les éléments qu'il faut
pour voilà, revoir vraiment sa stratégie, se remettre en cause, revoir aussi certains aspects de ça. Voilà. Et pourquoi pas se spécialiser? Parce que on vient avec les yeux, je vais dire, plein les rêves, on vient avec plein de projets. Maintenant, à la fin du cycle, il se remet en question. Il revoit finalement, est-ce que je me spécialise dans quelque chose? Puisque tout le monde ne peut pas être créateur de mode, ça je tiens à le dire. On ne peut pas se lever, j'arrive avec je dis non, je vais être créateur de mode, je vais créer. Non. On peut finir par être, par exemple, spécialisé dans le dessin. Donc je vais être styliste pour une marque de renom. Donc je prends ce que j'ai su faire, je deviens styliste, j'apprends et je mets ce savoir-faire là pour une marque reconnue. Et là aussi, je crée mon petit, je peux dire, je me suis vraiment spécialisé là-dedans, je crée mon petit terrain de jeu, c'est dedans je vais évoluer jusqu'à la fin, et je me perfectionne là-dedans.
Et Irma, vous êtes aussi situé où, pour ceux qui veulent peut-être... il est toujours important de savoir où est-ce que vous êtes.
Effectivement, Lima, l'Institut régional de la mode en Afrique est situé à l'intérieur du port de l'Onatra, donc dans le bloc 14. Et voilà, c'est un grand immeuble bleu, bleu un peu rayé de blanc. Donc c'est
référence Forestcom.
Il y a deux entrées, il y a l'entrée Forestcom et l'entrée Beach Ngobila. Donc c'est les deux entrées accessibles pour atteindre le port de l'Onatra et ensuite rentrer et voilà, bloc numéro 14, le magasin numéro 14 pour se situer à l'intérieur du port de l'Onatra.
Monsieur Albert Ngandou, rapidement, on est presque à la fin. À l'époque, on avait les Abacoste, à l'époque du maréchal Mobutu, Abacoste avec écharpe. Est-ce qu'on a aujourd'hui une marque congolaise comme ça?
Oui,
les Abacoste à l'époque.
Oui, il y a des marques spécialisées à Abacoste. Il y a aussi de marques, en fait, comme l'auditeur là le disait, le marque congolaise s'est dissocié de leur culture pour reprendre la culture européenne. Donc
ça.
C'est pays difficile. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur métissage culturel pour nous permettre de valoriser cette culture.
Monsieur Manuel Kazadi, rapidement, en quelques secondes, qu'est-ce qu'on retient?
Ce qui est vrai, Il faut entreprendre avec 5 pains et 2 poissons. J'aime ces livres. C'est un livre que l'on trouve dans la bibliothèque de Irma. Et donc, les auditeurs peuvent également s'en procurer. C'est un livre très intéressant.
Très intéressant, d'accord. Merci beaucoup en nous disant merci à nos invités, M. Kabi Attir, M. Albert Ngandou et Emmanuel Kazadi.
Merci beaucoup.
Merci pour votre passage. À la prochaine.
À la prochaine.
C'est par ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivie.